Coxigru et Calambreden.
Coxigru gru et Caxoglobel. Coxigru et Calambreden. Coxigru et Calambreden.
Coxigru et Calambreden.
Etna chez les Tuas des Danannes. À l'époque où la verte Irlande abritait encore sous ses tertres la race elfique des Tuas des Danannes, la tribu de Dana, il n'était pas rare que les elfes et les hommes se disputent l'amour des jolies princesses à la chevelure rousse. Car les elfes avaient alors l'apparence de vaillants seigneurs, vêtus d'or et de brocart, et leur charme opérait facilement auprès des simples mortels, d'autant mieux qu'à leur séduction naturelle, ils ajoutaient des sortilèges et des armes magiques propres à leur état féerique. Dagda, le souverain des Tuatha Dé Danann, accumulait toutes les qualités de cette race elfique. Il excellait dans tous les domaines, tant sur le plan physique qu'artistique. Au combat, il pouvait abattre 9 ennemis d'un seul coup de massue. Habile musicien, il tirait de sa harpe des sons étranges qui tour à tour provoquaient le rire, les larmes, la nostalgie ou le sommeil. Et il était détenteur d'un chaudron magique qui contenait une nourriture inépuisable. En outre, il était beau, d'une beauté pure et diaphane qui le rendait aux yeux des femmes pareil à un ange. Mais Dagda n'avait pas que des qualités. Il était également colérique, glouton et licencieux. On disait qu'il pratiquait des enchantements pour attirer à lui les plus belles femmes d'Irlande afin de satisfaire ses appétits charnels. Il avait également 4 fils auxquels il donna 4 royaumes distincts enfouis sous les tertres d'Irlande. L'un de ses fils, Finvarra, était le roi des Tuatha Dé Danann des Connach. Ayant hérité de la lubricité de son père, il jeta son dévolu sur la plus belle fille d'Irlande, Etna, afin d'en faire sa maîtresse. Mais Etna était elle-même amoureuse d'un jeune noble de Connach qu'elle épousa bientôt. Les noces furent grandioses et l'on dansa des nuits entières au son des harpes et des bagpipes. Etna filait le parfait amour avec son jeune époux et Finvarra désespérait de ne jamais parvenir à se faire aimer d'elle. Alors, il décida d'utiliser ses pouvoirs magiques. Un soir de bal, Etna s'affala à terre au milieu d'une danse, pâle comme une morte. On s'empressa autour d'elle, on lui fit humer des sels, on lui tapota les mains et le visage. Rien n'y fit. La jeune femme demeurait sans connaissance. On la fit alors transporter jusqu'à sa chambre, où son mari, au désespoir, la veilla toute la nuit. Ce n'est qu'au premier rayon du jour qu'Etna ouvrit les yeux. D'une voix lointaine, elle raconta qu'elle avait vu en rêve un palais magnifique, dans lequel régnait un puissant roi. Le soleil ne brillait jamais dans ce palais, mais une douce lumière émanait de ses murs tendus de tapisseries d'une finesse arachnéenne, tandis que des parfums subtils flottaient dans l'air et qu'une musique surgit d'un autre monde annihilait tous les soucis humains. Dans un soupir, Etna avoua qu'elle ne désirait qu'une chose, s'endormir à nouveau afin de rêver encore de ce pays enchanté, et elle ferma les yeux. La jeune femme dormit toute la journée sans s'éveiller. Sa peau était aussi blanche et froide que la neige, et son souffle aussi menu que la brise du soir. Le mari se rongeait les sangs, persuadé que son épouse était perdue. La nuit venue, une servante la remplaça au chevet de la belle endormie, afin qu'il puisse prendre un peu de repos. Mais la servante s'assoupit, et lorsqu'elle s'éveilla en sursaut au milieu de la nuit, le lit d'Etna était vide. Aussitôt, elle alerta tout le château. On fouilla les pièces, les unes après les autres, ainsi que le parc et les dépendances. Mais il fallut bien se rendre à l'évidence. Etna avait disparu. En désespoir de cause, le mari, éploré, décida de s'en remettre à ses alliés souterrains, les Tuatha Dé Danann, car le traité conclu entre les mortels et les Sidhes existait encore. Et le monde des hommes et celui des elfes étaient unis par des liens d'amitié et de reconnaissance réciproques. Le roi des elfes prodiguait souvent des conseils aux jeunes seigneurs, qui en échange lui offraient des denrées qui n'ont pas cours au royaume des elfes. du bon lait de vache, par exemple, ou bien de la bière fraîchement brassée. Accompagné de ses meilleurs cavaliers, le mari d'Etna se mit en selle et galopa en direction de la colline de Nokma, sous laquelle résidait Finnvarra. Aucune issue visible ne s'offrit aux intrépides mortels, qui jamais jusqu'alors ne s'étaient risqués au sein des territoires elfiques. On disait bien qu'aux nuits de pleine lune, une porte secrète s'ouvrait au flanc de la colline, conduisant par des passages obscurs jusqu'au centre du royaume magique. Mais le temps manquait pour respecter les usages. Le prince et ses hommes se demandaient comment ils allaient s'y prendre pour rencontrer Finnvarra. Lorsqu'un concert de chants d'oiseaux retentit dans l'ombre naissante, le prince prêta l'oreille, car on était encore au temps où les bêtes parlaient et où les hommes comprenaient leur langage. Et les oiseaux chantaient « Tiroli, Tirola, Finnvarra a été infidèle au pacte qui le lie à toi. Il a séduit et enlevé ta blanche épouse pour en faire son amante. Elle gît en son palais d'or et d'ombre et jamais plus n'en sortira, Tiroli, Tirola. » À ces mots, le prince sentit une colère effroyable monter en lui. D'un geste, il commanda à ses cavaliers d'aller quérir les paysans voisins, afin qu'ils creusent la colline jusqu'au palais du roi Félon. Armés de bêches et de pelles, les hommes ouvrirent ainsi une large galerie qui pénétrait profondément au cœur du tumulte. Ils ne s'arrêtèrent qu'à la nuit tombée, épuisés de fatigue. Mais le lendemain matin, une mauvaise surprise les attendait. Les elfes avaient mis à profit le sommeil des hommes pour combler la galerie creusée avec tant de difficultés par les hommes. Il fallait tout recommencer. 3 jours durant, les paysans s'échinrent en vain. À chaque fois, le monticule de terre se reconstituait par magie. Mais au matin du 4e jour, le concert des oiseaux reprit, soufflant la solution au prince. Tiroli, Tirola, si du sel est répandu sur la terre remuée, le travail des mortels restera inchangé. Tiroli, Tirola. Le sel, en effet, a toujours été l'ennemi des esprits élémentaires. On alla donc quérir cette denrée rare et précieuse, et grâce à ce subterfuge, les paysans purent reprendre efficacement leur travail de sape. 3 jours encore leur furent nécessaires pour parvenir jusqu'au royaume caché des Teadedanan. Le dernier jour, alors qu'ils n'étaient plus que séparés par une fine cloison, ils entendirent les elfes qui gémissaient comme des âmes en peine, car ils savaient que si le soleil atteignait le palais de Finnvarra, ce dernier se dissiperait en fumée. Le roi des elfes parut alors et supplia les hommes de cesser leurs travaux. En échange, il promit de rendre Etna à son époux dès le coucher du soleil. Le prince accepta cette offre et patienta jusqu'au soir. Dès que le dernier rayon de soleil eut disparu, la jeune femme sortit de la galerie, habillée comme au jour de sa disparition. À travers une ceinture nouvelle qu'elle portait à la taille, tissée, nouée et brodée avec le plus grand art. Le prince accueillit sa femme, les bras ouverts. Mais celle-ci ne parut pas le reconnaître. Elle était toujours si pâle, ses yeux étaient éteints, et elle marchait comme dans un rêve. Des semaines, des mois durant, elle demeura dans cet état de prostration, et à la cour, on murmura qu'elle avait sans doute mangé de la nourriture enchantée, et qu'elle avait perdu son âme à jamais. On disait aussi que les rares mortels qui parviennent à revenir du pays des elfes en conservent une nostalgie qui ne les quitte jamais. Etna avait été enfadée, enfaitée, et jamais elle ne redeviendrait elle-même. Un an après le retour de sa bien-aimée, le prince chevauchait tristement par la lande lorsque le concert d'oiseaux se fit attendre pour la 3e fois. Cette fois-ci, il disait « Tiroli, Tirola, l'esprit d'Etna est resté prisonnière au pays des elfes. C'est la ceinture brodée qui en est la cause. Si tu brûles ce lien magique, celle que tu aimes te sera rendue, Tiroli, Tirola. » Le cœur battant, le prince se précipita au château et se rendit dans la chambre de sa femme. Celle-ci reposait à son habitude, les yeux dans le vague, comme si elle avait perdu l'esprit. Le seigneur se pencha vers elle et voulut dégrafer la ceinture. Mais celle-ci était bien attachée, au moyen de nœuds de fées si fins et si serrés qu'aucune main humaine ne pouvait en venir à bout. Alors le prince prit son épée, trancha d'un seul coup la ceinture et la jeta dans la cheminée. Dès que les derniers fils magiques se furent consumés, Etna sauta hors de son lit et courut l'embrasser, pareille à celle qu'elle avait toujours été avant son enchantement. Et le souvenir de son année passée au pays des elfes se résuma pour elle au rêve d'une nuit.
Lorsqu'il n'ouvre pas toutes grandes les portes, Dieu ne fait rien. Ce serait là son métier, ne rien faire. C'est un métier très difficile. Il y a très peu de gens qui sauraient bien le faire, qui sauraient ne rien faire. Dieu, lui, fait cela très bien. De temps en temps, pour se reposer, il s'arrête de ne rien faire. Alors il fait des bouquets, il cueille toutes les lumières du monde, même celles des orages et des encriers. Il en fait des bouquets, mais ne sait à qui les offrir. Ou bien il met un coquillage tout contre son oreille et il écoute des musiques, toutes les musiques du monde. Longtemps il écoute, et c'est comme un flocon dedans son cœur. Un tourment d'écume. Le premier âge de la mer. L'immensité de la mer dedans son cœur. Et Dieu se met à rire, et Dieu se met à pleurer. Parce que rire ou pleurer, pour Dieu, c'est pareil. Parce que Dieu est un peu fou, un peu bizarre. Et si on lui demande ce qu'il a, il dit qu'il ne le sait pas, qu'il a tout oublié, le long des chemins, et qu'il a perdu la tête, perdu son ombre, qu'il ne sait plus son nom. Et puis il rit, et puis il pleure, et il s'en va, et il s'en vient. Et c'est le jour, puis c'est la nuit, et puis voilà. C'est toujours comme ça, toujours, chaque jour.
Vous la connaissez, celle-là ?
Le sous-marin des souris. Les souris ont parfois leurs petits secrets. Enzo et Enza, elles, en ont un gros, qu'elles n'ont dit à personne, pas même à leur cousine. Le secret d'Enzo et Enza, c'est qu'elles ont un sous-marin. Un vrai sous-marin qui va sous l'eau. Tous les soirs, vers 6 heures, elles filent sans se faire voir et vont s'installer à bord. Enzo prend les commandes et ça ne rigole plus.
« Fermez les écoutilles !» dit Enzo.
« Écoutilles fermées !»
répond Enza.
« Attachez vos ceintures !»
dit Enzo.
« Ceintures attachées !» répond Enza.
Et bloup, le sous-marin plonge dans l'eau. Enza regarde par le hublot.
« Oh, un poisson rouge ! Eh ben, qu'il est gros, hein !»
Tout à coup, un grand choc les secoue.
« Alerte, alerte !» crie Enzo. « Nous avons heurté une montagne sous-marine rose !»«
Ouf !» dit Enza. « Le sous-marin n'a rien !»
« Bien reçu !» dit Enzo. « Continuons à descendre !»
Le sous-marin approche du fond quand, tout à coup, il est secoué dans tous les sens.
« Alerte, alerte !»
hurle Enzo.
« Que se passe-t-il encore ?»«
C'est un courant terrible !» crie Enza. « Il nous entraîne vers un gouffre rond et noir. Nous sommes perdus !»
À ce moment-là, une grosse voix résonne.
« Adrien, sors du bain maintenant. Le dîner est prêt. Et ne laisse pas ton sous-marin dans la baignoire. »
Une voix de petit garçon répond.
« D'accord, maman, j'arrive !»
Quand Enzo et Enza sortent de leur sous-marin, Enzo dit
« C'était génial cette plongée, vivement demain qu'on recommence !»«
Ouais !»
répond Enza.
« Et ce coup-là, c'est moi qui pilote !»
Pour faire une bonne soupe, ce n'est pas compliqué. Quelques scarabées baveux. Du jus d'araignée, un peu d'eau pourrie dans une marmite ébréchée. Ajoutez du poil de rat, des escargots desséchés, un vieux chat, enfin, tout ce qui traîne dans la chambre, tout ça sur le feu, pendant des heures, et surtout, surtout, servez bien brûlé. Ou alors, pommes de terre, carottes et un navet, oignons, poireaux, tomates, un peu de serpolet, tous ces légumes bien lavés et bien épluchés dans une belle cocotte brillante, vont mijoter. Ce soir, vous invitez une sorcière à dîner. Choisissez la bonne recette pour ne pas vous, en crapaud, être transformé.
De la musique cette semaine.
Oh, lélé, Olé lé, moliba makasi. Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai. Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai. Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai.
À toi de jouer.
Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai. Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai. Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Olé lé. Olé lé, moliba makasi. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai. Boka naye. Boka naye, boka boka kasai.
Coxigru et Calambreden.
Coxigru et Coxiglobel. Coxigru et Calambreden. Coxigru et Calambreden.
Coxigru et Calambreden.